Je serai le président de tout le Sénégal.
Merci de votre fidélité. Nous sommes dans votre émission de Ménage.
Remue Ménage. Tous les dimanches de 10h à 11h, Remue Ménage épluche et décortique pour vous l'actualité de la semaine. Remue Ménage reçoit des chroniqueurs, des politologues, des sociologues, des analystes, des universitaires. Bref,
tous les intellectuels.
Avec son dynamisme et sa réactivité, LSM Samba Diop, avec ses invités, commente l'actu. Histoire d'approfondir et de mieux comprendre.
Remue Ménage.
Le plan Sénégal émergent, implications, résultats et perspectives. La mystique du travail au Sénégal comparée au modèle chinois. Pourquoi les élections locales sont problématiques au Sénégal avec des reports? Pour répondre à toutes ces questions d'actualité, Remue Ménage reçoit ce dimanche 2 mars 2014 Sanou Mbaye, économiste, ancien expert à la Banque africaine de développement, et Dramani Keïta, analyste politique, auteur du livre Le marché politique sénégalais, un Capharnaüm. Remue Ménage, dimanche 10h, 11h avec Alassane Samba Diop sur la radio de toute l'actualité RFM.
Nous sommes dimanche 2 mars 2014. Merci d'être à l'écoute de Remue Ménage qui reçoit donc aujourd'hui Sanou Mbaye, économiste, ancien de la Banque africaine de développement, et Dramani Keïta, analyste politique, auteur de livre Le marché politique sénégalais, un Capharnaüm. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez encore, l'actualité de la semaine c'était le plan Sénégal émergent. Le fameux PSE. On en parle partout, dans toutes les chaumières. Aujourd'hui donc, Sanou Mbaye, on dit que ce plan a ramené plus de 3 000 milliards de francs CFA pour le Sénégal avec les bailleurs de fonds, les partenaires stratégiques comme on dit, et on les qualifie de groupe de consultatif qui a mis cet argent à la disposition du Sénégal. D'abord, il faut expliquer au Sénégal de façon claire que cet argent, ce sont des intentions de financement. C'est ça, Sanou?
Ce sont des
intentions de financement, c'est ça?
Oui, absolument.
Des promesses.
Des promesses de financement. Et quand on voit, il faut aussi se rendre compte comment fonctionnent ces institutions. Parce que quand même, quand on parle de partenaires techniques et financiers qu'on a rencontrés à Paris, c'est la Banque mondiale, hein, c'est les Européens. Donc, ces partenaires que nous avons, quelle était encore la question?
C'était... des intentions de financement.
Voilà, ils font des promesses.
Bon, ils sont...
Après ces promesses, il faut qu'ils envoient des missions d'identification. Après ces missions d'identification, c'est des missions de préparation. Après, c'est des études de faisabilité. Après, c'est la mission d'évaluation. Après, on passe au conseil d'administration. Après, on négocie les conditions qui sont attachées à ce projet. Et une fois que c'est signé, on passe à la phase d'appel d'offres. Et jusqu'à présent... les institutions de Bretton Woods, c'est l'appel d'offres international. Et ces appels d'offres internationaux, vous verrez que tous les financements, en fait, se déclinent en contrats. Et vous verrez que à travers les appels d'offres internationaux, tous ces contrats vont à des firmes occidentales, principalement quand c'est la zone franc, des firmes françaises. Et compte tenu des régimes de change, De la stratégie monétaire en cours dans cette zone-là, ça veut dire que tous les prêts qui sont accordés, ça se décline en contrat accordé à ces gens-là, à ces firmes-là, et ces firmes-là exécutent et retournent l'argent. Donc, si on reste dans ce modèle-là, s'il n'y a pas de rupture, franchement, il n'y a pas de quoi se glorifier des intentions de financement que nous avons reçues à Paris. Ce qui n'est pas le cas des intentions de financement que nous avons reçues de la Chine. Mais ça, on en discutera.
Donc, de façon claire, si les Sénégalais veulent comprendre, les promesses qui ont été faites de plus de 3 000 et quelques milliards de francs CFA apportés au Sénégal, si les Sénégalais ne changent pas de régime monétaire, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on reste dans la zone CFA, si on prend 1 euro qu'on investit au Sénégal, c'est peut-être 2 euros qui retournent en Europe, c'est ça?
Absolument. Et puis, alors, mais est-ce que ce n'est pas frappant? On parle d'émergence. Mais il faut d'abord définir ce qu'est l'émergence. Émergence, les pays qui sont, on parle des pays d'émergence, comme la Chine, comme le Brésil, c'est des pays qui sont partis du stade où on n'exportait que des matières premières pour passer au stade où on ajoute de la valeur ajoutée. Ces gens-là exportent maintenant des produits manufacturés, que ce soit des avions, des voitures, des frigidaires. Donc nous, pour partir du stade où nous sommes, de sous-développés, pour aller au stade émergent, il nous faut adopter une stratégie d'industrialisation. Cette industrialisation, c'est quoi? C'est produire aussi bien que les autres et exporter. C'est ça qu'il, pour être émergent, c'est ça qu'il faut. C'est, donc, en définitive, ça n'a pas frappé les gens que, en fin de compte, quand on parle des pays qui sont en train d'être émergents en Afrique, c'est-à-dire qu'on parle du Kenya, on parle de l'Éthiopie, il y a le Nigeria, il y a le Ghana, ce sont des pays comme ça, et ça ne frappe personne qu'aucun de ces pays, dans aucun de ces pays, ne figure un pays de la zone franc. Au contraire, est-ce que ça ne frappe pas que les pays de la zone franc, à cause de cette politique monétaire qui fait que c'est impossible qu'ils adoptent des programmes d'industrialisation à succès, que cette impossibilité qui fait que maintenant, partout, où il y a déséquilibre, pauvreté qui s'est accentué au point d'arriver à des guerres, mais c'est où? C'est pas la Centrafrique, c'était pas le Mali, c'était pas la Côte d'Ivoire, c'était pas le Niger avant. Ça ne frappe pas que les pays qui décollent, ce sont des pays qui ont rompu avec le modèle de développement, rien qu'exporter des matières premières et importer des biens manufacturés. Ce qui est comme dans l'économie du Sénégal, on importe plus qu'on exporte, et ça crée un déficit structurel. Et tant qu'on n'a pas résolu ce problème de déficit structurel, parler de Sénégal émergent, franchement, ça relève du rêve. Heureusement que le Sénégal a déjà plus de 60% de ses financements. Et moi, j'ai trouvé comme une subtilité qu'avant d'aller à Paris, le président soit passé en Chine. Et après Paris, il soit allé à Doha. Parce qu'en fin de compte, qui c'est qui a permis aux pays d'Afrique subsaharienne de rompre avec le modèle imposé par les institutions de Bretton Woods, c'est-à-dire on vous garde, vous continuez à produire des matières premières, et on vend nos biens manufacturés. Mais qui c'est qui a permis à cette rupture? Mais c'est la Chine. Et cette Chine-là, est-ce que vous avez vu la Chine faire des investissements productifs dans aucun pays francophone? C'est des stades, c'est des arènes, c'est des théâtres. Mais des investissements productifs, c'est-à-dire des infrastructures, des ponts, des routes, des centrales électriques, des barrages. Ce qu'ils ont fait au Kenya, ce qu'ils ont fait en Éthiopie, mais ils n'ont fait dans aucun pays de la zone franc, parce qu'ici, c'est une chasse gardée.
Salomba, il pose une question de fond aujourd'hui, Dramani, par rapport justement au modèle des échanges que nous avons, économique que nous avons, la dépendance que nos pays ont encore avec le modèle occidental, caché derrière les FMI et la Banque mondiale qui représentent ces pays-là dans nos pays.
Bien, je vous remercie. Donc, avant de commencer, je suis natif de Tamba et actuellement, vous savez que les malades mentaux à Tambacounda souffrent énormément avec l'atrocité qui s'abat sur eux. Donc, j'ai une pensée pour les familles de ces malades. Donc, pour rebondir sur la question que vous posez, effectivement, il faut une justification économique. Le projet a été présenté à Paris. Très bien. Ceux qui l'ont proposé, l'objectif c'était 1800 milliards à peu près. C'était l'objectif. On se retrouve avec plus de 3000 milliards. C'est que le projet a été bien présenté. Très bien. Et les bailleurs de fonds, toutes les institutions internationales, lorsqu'ils décident d'investir, c'est qu'ils attendent quelque chose. La difficulté, c'est ils interviennent au Sénégal, mais il y a un certain nombre de secteurs qu'il faut voir. Ces secteurs, des secteurs porteurs. M. Mbaye a parlé tout à l'heure des produits que la Chine, par exemple, interviennent beaucoup au niveau économique, d'ailleurs partout en Afrique. C'est qu'ils interviennent dans des domaines qui n'ont pas d'impact visible sur l'économie.
Dans les pays francophones, il dit. La part des stades, la Chine met en place des théâtres, met en place aujourd'hui dans l'Afrique francophone pas de pont, pas de centrale électrique comme ils le font aujourd'hui au Kenya, peut-être dans des pays qui ont leur propre monnaie. Contrairement à l'Afrique francophone dans laquelle nous sommes, où le CFA est convertible, tu te mets 1 euro, c'est 2 euros que l'Europe gagne.
Ah ben oui, naturellement. Mais de toute façon, ça c'est une logique. Vous savez, on a les compétences. Nous savons tous. Tout a été dit. Tout a été dit. En 3 jours, on parle, mais tout a été dit. Tout reste à faire. Il ne suffit pas d'avoir de bonnes idées. Il faut les transformer, ces idées. Il faut que l'investissement soit porteur. Or, les matières premières qui intéresse en réalité. Parce que les emprises sénégalaises, je veux bien savoir, parce que on parle, il faut parler aussi des emprises sénégalaises. Parce que il faut, c'est des gens qui travaillent, qui ne demandent rien à personne. Il faut créer des cadres justement pour ces gens-là. Il y a un cadre vraiment juridique sécurisé et que l'État intervienne pour vraiment aider ces entreprises. Et en plus, s'ils interviennent, les Européens interviennent, naturellement, ils investissent. Ils ne viennent pas pour faire du social. Il faut que les gens sachent qu'ils ne viennent pas pour faire du social. Et l'argent dont on parle, qui n'est pas encore arrivé, il y a toute une négociation derrière. Monsieur Mbaye vient de le dire, il y a un contrat. Le bailleur de fonds, ben, naturellement, il faut qu'il y ait la confiance, il faut qu'il y ait un cadre juridique, mais il faut que ce soit rentable pour les investisseurs. Or, le cadre est propice, naturellement, le cadre juridique, je dis bien.
Il y a eu beaucoup d'argent qui a été injecté au Sénégal. Jusqu'à présent, le Sénégal reste dans une situation difficile de pauvreté et de non-développement de certaines zones de ce pays-là. Pourquoi, avec autant d'argent injecté au Sénégal, on n'arrive pas à s'en sortir? Est-ce que c'est l'incapacité des Sénégalais à mettre en place de bons projets pour le réussir? Ou bien est-ce que c'est la structure de l'économie sénégalaise qui fait qu'aujourd'hui, que ce n'est pas possible?
C'est la structure. Le problème est structurel. Et puis alors, ce qu'il y a de déprimant dans cette situation-là, c'est que, en fait, ça procède d'un deal dans les pays de la zone franc. Ce sont les élites qui ont fait ce deal avec la France. C'est-à-dire, c'est une économie qui est complètement basée sur l'importation. Hein, donc, votre déficit commercial, c'est structurel. Vous ne vous en sortez pas. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Donc, il y a deux modèles de développement. Il y a le modèle de développement que nous avons pour le moment. Hein, c'est l'aide, parce qu'en définitive, notre endettement est tel, hein, notre déficit est tel, qu'on, les institutions de Bretton Woods, en fait, exigent du Sénégal que le Sénégal n'ait recours qu'à des prêts concessionnaires. Donc, vous avez l'aide, ce modèle de développement. Vous avez l'aide, et puis il y avait un autre mode de développement qui consiste en un package aide, commerce, investissement, transfert de technologie. Il se trouve que pour rompre, partir de l'économie qui est fondée uniquement sur l'aide complètement, les otages des Occidentaux et des Bretton Woods, et partir, rompre tous ceux qui ont essayé de le faire dans la zone franc, ont sauté.
C'est-à-dire
tous, que ce soit au Niger, quand ils ont essayé de trouver une alternative dans les Chinois, Tanya a sauté. En Côte d'Ivoire, quand Gbagbo a essayé de trouver une alternative au CFA, il a sauté. Au Mali, pareil. Et ces pays sont dans une telle pauvreté que c'est le terreau. Ça devient un terreau pour toutes sortes de choses, le terrorisme, le trafic de drogue et tout ça. Donc, il faudrait qu'on puisse rompre de ça. Mais tous ceux qui ont essayé de rompre, et la seule manière de rompre, c'était les alternatives données par les pays émergents, ces pays que nous voulons rejoindre, c'est plutôt tous ceux qui ont essayé de le faire au niveau de la zone franc ont sauté. Et moi, je suis sceptique parce que si vous regardez tout le plan du PSE, il n'y a aucun moment où il est parti parler du CFA, de la zone franc. Il n'y en a pas. Donc, est-ce que... il y a un projet de réforme que nous ne savons pas, ils n'en parlent pas, ou il n'y a pas de projet de réforme. Et s'il n'y a pas de projet de réforme, cessons de parler d'émergence.
Oui, ça demande ce que vous dites aujourd'hui attire l'attention de beaucoup de Sénégalais. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, la compétition que la Chine et les pays dits traditionnellement partenaires sont en train de faire en Afrique peut se faire au détriment aujourd'hui de la stabilité du pays, c'est ça? Vous voulez dire?
Absolument.
Que les Occidentaux peuvent créer des troubles au Sénégal parce que les Chinois ont parlé aux Chinois?
Les Occidentaux...
armés des ONG, armés des trucs pour déstabiliser le pays, c'est ça?
Absolument. Je veux dire, quiconque a essayé de sortir de cette zone... Hein, a été abattu. Et c'est pourquoi j'avais dit, donc quelqu'un, pour avoir le courage de le faire, il faut d'abord poser le problème de réforme, mais il faut le poser à ton peuple. Hein? C'est par référendum qu'on était rentré là-dedans, c'est par référendum qu'on peut y sortir parce que vous savez que vous avez votre population derrière. Mais le problème, c'est que ces populations-là ne sont pas concernées, c'est les élites. C'est les élites. Il n'y a pas du tout de patriotisme économique. Prenez l'élite, ces élites qui ont fait ce contrat avec la France. Prenez ces élites-là et regardez-les vivre. Ce qu'ils ont, le deal qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont le même standing de vie que les Occidentaux. Regarde les voitures qu'ils conduisent, les habits qu'ils portent, les maisons qu'ils habitent, c'est exactement le même niveau de vie que les élites occidentales, sans rien avoir de la productivité. Donc vous mettez votre pays en otage, hein, et maintenant vous nous parlez d'émergence. C'est pas possible. Il faut, est-ce qu'il y a un programme de réforme de la zone franc, et on ne l'a pas dit, mais il y a ce programme de réforme. Mais tant que nous avons le taux d'intérêt, les taux d'intérêt les plus élevés du monde, je vous dis, aux États-Unis, les taux d'intérêt sont à 3%. En Europe, les taux d'intérêt sont exactement à 3%. Ici, pour emprunter, il faut payer entre 13 et 18%. Le taux de change, partout, on appelle la guerre des monnaies. Pourquoi ? Parce que, par exemple, les Chinois ont le taux de change le plus bas. Ça vous donne des avantages dans votre production. Nous, on a le taux de change le plus élevé, surévalué. Donc, impossible quand même, dans ces conditions-là, ajoutez-y le libre transfert. Ajoutez-y le libre transfert. Donc, voilà un environnement, tant que ça ne changera pas, hein, on ne pourra absolument pas du tout intégrer le modèle de développement qui consiste à investir, à créer des emplois, à adopter un programme d'industrialisation, c'est-à-dire pouvoir produire et vendre.
Dramane, donc, il faudrait qu'on passe par ces réformes en profondeur si on veut vraiment que l'émergence s'installe dans le pays. C'est ça? Vous partagez l'avis de Sano sur ça?
Ah, mais tout à fait, c'est évident, c'est évident, parce que tant que l'État du Sénégal, tant que le gouvernement, les autorités ne comprennent pas qu'il faut réformer, mais ce n'est pas en annonçant ou en faisant des déclarations ou des bonnes intentions, mais ça ne suffit pas. Il y a enfin, on a nos institutions, quoi qu'on dise, on a nos institutions qui fonctionnent. Mais il faut réformer. Réformer quoi ? Le code des marchés, les investissements, fluidifier le circuit de l'argent. Fluidifier le circuit de l'argent, parce que ça c'est important. Et là, actuellement, on a annoncé les 3 000 milliards. En lisant la presse, ben, il y a une frénésie débordante. Et tout le monde est content. Mais vous savez, les prêts, il faut les rembourser. Quand on n'investit pas dans des secteurs productifs et qu'il n'y a pas une bonne gestion, il n'y a pas une transparence au niveau de la gestion de ces fonds, c'est des prêts. Il faut les rembourser. Vous allez les rembourser. Vos enfants vont les rembourser. Moi, mes enfants vont les rembourser. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, il faut que les gens comprennent que c'est de l'argent si ce n'est pas bien investi. Les taux d'intérêt que M. Mbaye vient de parler posent un problème. Et je ne parle même pas de la zone franc. Je me limite juste au cas du Sénégal. Lorsque vous achetez une maison, on vous parle de taux d'intérêt jusqu'à 11%, 8%. Alors qu'en Europe, le taux d'intérêt, même si ça se complique, c'est à 5%, 6%, 8%. Je ne parle pas des taux des crédits revolving. Mais déjà, il faut qu'on arrive à ce que la matière prenne corps. Dans ces cas-là, il faut que permettre... C'est une réflexion d'ensemble, parce que le Sénégal quand même fait partie d'un ensemble. Donc, partager, c'est pas une monnaie, c'est une monnaie qui est partagée. Donc, effectivement, il faut qu'il y ait une analyse et puis une concertation d'ensemble pour arriver à sortir du franc. Bon, pour l'instant, j'ai pas les arguments, en tout cas, suffisant pour dire que le Sénégal doit sortir du franc. Mais il y a quand même le libre transfert que M. Mbaye vient de parler. Ça nous coûte. Donc les réformes, je crois que c'est nécessaire que l'État se dise... chaque fois qu'on parle des milliards, les gens, pendant 3 jours, il y a une énergie... Les médias, les autorités, on parle de 3 000 milliards, mais les 3 000 milliards, eh bien, on ne les prend pas juste au manche et puis on s'assoit. L'argent, ce n'est pas que le social, il y a aussi l'économie. Les bailleurs de fonds, les investisseurs, les institutions internationales, mais lorsqu'ils mettent des fonds à la disposition d'un État, c'est la gestion, la bonne gouvernance, on en parle. C'est des intentions, ce n'est pas un programme, ils font un programme. Or, ce qu'on vit actuellement, c'est une juxtaposition des projets politiques. Donc il y a un ensemble de partis qui ont mis l'ensemble. Bien entendu, un président a été élu avec un programme. Mais il y a une coalition, donc voilà, et puis les tractations font que il va falloir que le chef de l'État prenne des dispositions concrètes et trace le chemin avec... il faut changer, il faut que... C'est culturellement, culturellement, il faut changer les choses. Et malheureusement, on a encore du chemin à faire.
Ça nous paye beaucoup d'argent, on parle même de 6 000 milliards si on cumule à ce que les bailleurs de fonds vont donner et ce que aussi la Chine va mettre à la disposition du Sénégal. Mais le gros problème, le président quand il est rentré, il dit qu'il faut que les gens puissent travailler. Il faut effectivement que cet argent-là, qu'on puisse faire avancer le pays. Et le conseil qui a été fait un peu partout, c'est de façon globale que les Sénégalais soit ne travaillent pas, soit on ne les fait pas travailler.
Oui, mais d'abord, quand on parle de milliards comme ça, vous savez, ça donne un peu le tournis. Hein. C'est devenu l'unité de compte, quoi. On ne parle que de milliards. Mais il faut savoir que quand il y a des crédits qui sont accordés, ce n'est pas qu'on met de l'argent dans la mallette et qu'on donne au gouvernement, faites-en ce que vous voulez. Non, non. Tous les financements se traduisent en contrats de biens et services. Alors, le modèle idéal, c'est que tout contrat qu'on attribue, si ça ne va pas à une firme locale, on voit que la firme qui gagne le projet est un partenaire local.
Soit de joint venture.
Oui, mais écoute.
Il y a une loi qui a été votée à l'Assemblée nationale pour une joint venture au Sénégal.
Ah ben j'espère bien que ça sera appliqué d'une manière effective. Parce qu'on vous dit transfert de technologie, vous gagnez un contrat, il vous faut un partenaire. Dans la Chine, en Chine, je peux vous dire que même une réunion, vous ne pouvez pas l'organiser en Chine si vous n'avez pas un partenaire local pour organiser cette réunion. Donc, ce partenariat, tous les contrats, il faut qu'il y ait des retombées dans le pays. Et je vous dis que dans les organisations internationales, il y a une disposition même qui dit que pour favoriser l'industrialisation de ces pays-là, quand il y a un appel d'offres, quand c'est des locaux qui ont subventionnés, même s'ils sont 10% plus chers, s'ils sont techniquement bons, il faut les prendre pour favoriser cette industrialisation. Mais il y a un petit... comme d'habitude, quoi. Il faut que, au moment où vous demandez le financement, vous dites que aussi, voici la liste des biens services qui correspondent à l'accord, il faudrait que tout ce qui est, mettons, terrassement, tout ce qui est construction aille à des firmes étrangères. Il faudrait que toutes les attributions, les firmes qui doivent les gagner, doivent avoir des partenaires locaux. Mais est-ce qu'il y a une politique qui dit que, avec l'objectif de devenir un Sénégal émergent, aussi l'objectif de dire que tout contrat qui arrivera avec nos financements, il faudra que ça soit exécuté avec des partenaires locaux. Et si est-ce que ces partenaires locaux existent? On parle de privé local. Est-ce que ce privé local, moi quand je suis là, vivant à Londres, quand je viens voir privé, je vois plutôt le secteur privé français. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que c'est ce secteur privé-là, qu'il s'agisse de Bolloré, qu'il s'agisse de Bouygues, qu'il s'agisse des Fages et tout ça, tout ce qui est marché privé, c'est Ekigai. Le dernier tronçon, l'autoroute là, c'est pas FH qui a gagné. Mm-hmm. Et tout ce qui est marché public, c'est les États qui dépensent de plus. Et tout ce qui est marché public, c'est eux aussi qui les gagnent. Et pire, vous allez voir que tous les financements qui viennent des institutions de Bretton Woods, tous les contrats sont exempts d'impôts. C'est-à-dire, l'argent qu'on vous donne, vous n'avez même pas de retombées fiscales là-dedans. Vous n'avez même pas de ressources. Ça doit être exempt d'impôts. Donc,
Les grandes firmes ne payent pas les impôts.
Ne payent pas de taxes sur les choses qu'ils apportent. Et en plus, tout le contrat qu'ils gagnent, après, ils sont libres, tout retransférer, y compris les petits. Donc, vous dites que votre objectif, c'est d'être émergent. Votre objectif, c'est d'aller chercher des financements. Il faudrait quand même aussi dire que mon objectif, j'espère que c'est inclus dans les textes, mon objectif aussi, c'est que tous ces financements qui vont être transcrits en contrat de biens et services, ce sera avec des partenariats locaux.
Mais vous n'avez pas répondu à ma question, Samou, par rapport au travail. Aujourd'hui, est-ce qu'au Sénégal, les gens ne travaillent pas ou bien on ne fait pas travailler?
Ah ben, il y a les deux. Hein. Uh-huh. Il y a les deux. Parce que je veux dire, il y a cette nostalgie dont on parle. Je crois que c'était les jeunes de Yanama qui ont parlé du nouveau type de Sénégalais. Vous savez, en matière de de ce quand on vit, ce qu'on appelle la mondialisation, c'est industrialisation et c'est la compétition. Donc il faut produire moins cher et mieux que les autres. Donc ça, ce sont les hommes qui le font. Donc ce sont des gens qui sont là, qui sont disciplinés. Pourquoi les Chinois, quand ils gagnent un contrat, ils amènent leur compatriote. Tout le monde s'en plaint. Bon, mais pour eux, c'est le moyen. Le projet pour lequel les Occidentaux demandent 1 milliard, eux, ils l'exécutent à 300 000, parce qu'ils peuvent maîtriser les coûts. Donc il faudrait que nous, on dise que ce n'est pas la peine de s'en plaindre, de dire que oui, quand ils donnent un contrat, ils viennent avec le Chinois, mais le contrat, avant de l'exécuter, il faut dire que non, vous allez l'exécuter avec un partenaire local. Et ces choses-là, si vous ne le dites pas, vous transfert de technologie, mais c'est un mot énorme, c'est à vous de demander le transfert de technologie que vous voulez. Donc, en fin de compte, il faut avoir ce Sénégalais nouveau, et pour le moment, le Sénégalais qu'on voit, c'est quand même assez indiscipliné. Il y a une corruption latente, il y a un absentéisme, il y a des faits tout le temps. En tout cas, nous n'avons pas la personne. Et regardez n'importe quel Sénégalais. N'importe quel Sénégalais regarde de la tête aux pieds ce qu'il porte. Est-ce que c'est fabriqué ici? Est-ce que c'est fabriqué dans la région? Ou c'est fabriqué à l'extérieur? Regardez les véhicules qui transportent ou les motos qui transportent. Donc, il faut arriver à faire incarner, c'est une forme de révolution culturelle, ce nouveau type d'homme, ce nouveau type de Sénégalais, ce nouveau type d'Africain qui pense nation, région, qui pense d'abord local, la nation, qui pense la région, hein, qui pense l'Afrique et puis qui pense le monde.
Dramani, est-ce qu'aujourd'hui vous avez l'impression que ces Sénégalais-là, l'argent qu'on va amener, ils seront assez outillés pour de fructifier, travailler cet argent, si on donne par exemple des rendez-vous qui soient respectés, que dans l'administration les contrats puissent être exécutés de façon rapide, ou que les choses puissent aller de façon rapide.
Vous savez, on a les compétences, je voudrais juste de les lire en fait, on a toutes les compétences.
C'est quoi le problème alors? Pourquoi ça ne marche pas?
Ah voilà, justement. Monsieur Mbaye parlait d'absentéisme. L'absentéisme est un problème récurrent au Sénégal. Ça devient même culturel. Donc, là, pour vraiment bien gérer les fonds et que ça se passe dans de bonnes conditions, là, sur cette question, M. Mbaye a déjà, un bon économiste, a posé déjà les grandes questions. Moi, je m'interroge juste
Parce qu'on se donne souvent comme modèle la Chine. On dit que la Chine est un pays émergent qui mais là-bas, il y a quand même la mystique du travail.
Oui, mais
les Chinois sont disciplinés, travaillent beaucoup, travaillent peut-être bien.
Mais c'est culturel. Mais justement, quand vous écoutez M. Mbaye parler de la Chine, dire que oui, mais là, ils viennent avec le personnel, la maîtrise des coûts, parce que c'est important, mais c'est en négociation. Vous savez, les contrats, c'est au moment de négocier les contrats. Les négociateurs, il faut bien choisir les négociateurs. On discute, les conditions sont posées, on essaie de négocier le contrat, on essaie de trouver. Là, effectivement, il faut trouver des partenaires locaux, les entreprises privées. Très bien, c'est vrai. Et le problème qui se pose, c'est que c'est souvent des entreprises étrangères, principalement françaises. Créons que l'État fasse de sorte que certaines entreprises qui interviennent dans le même secteur, qu'on crée des ensembles et que l'État soit derrière, je ne sais pas maintenant si la législation au niveau sous-régional le permet de la CDAO. Bon, ça je ne sais pas, mais qu'on crée les conditions pour qu'il y ait des regroupements ou des rapprochements d'un certain nombre de sociétés de la place qui interviennent dans le même secteur pour que l'État, qu'on facilite aussi les crédits pour que ces entreprises se développent. Parce que les compétences, je vous assure que quand on fait un petit tour à l'université, dans les universités ou dans les institutions, dans les instituts de formation, on a des compétences.
Le problème, c'est la gestion. Est-ce que cette compétence elle-même, elle travaille justement pour que les choses changent?
Mais justement, le problème qui se pose, c'est qu'il y a l'absentéisme et puis il y a l'absence de transparence. L'absence de transparence. Et pourtant, c'est de ça qu'on parle du matin, chaque fois qu'on regarde. On écoute les ondes, on lit les journaux. Mais c'est la transparence, la bonne gouvernance. Et je vous assure que tous les jours, des cas de corruption ou de cas de se présente. On est dans, il faut faire de sorte que ces comportements cessent dans ces pays.
Mais est-ce que c'est une bonne chose de dénoncer la corruption dans l'administration et partout, s'il y a des projets, par le président a demandé aux bailleurs de fonds, si on vous demande l'argent, des commissions refusées.
Mais ça ne suffit pas, il ne s'agit pas de dire oui, il faut que désormais, depuis des années, depuis les indépendances, tout le monde sait qu'il y a la corruption. Tout le monde sait qu'il y a manque de transparence à tous les niveaux. À tous les niveaux, dans toutes les structures de regroupement, de groupement, on sait qu'il y a la corruption. D'ailleurs, ça valse de tous les côtés. Et malheureusement, si on met des dispositions, des tels fronts à la disposition du Sénégal, si ce n'est pas bien géré, forcément, c'est des dettes qu'on va... on a une lourde responsabilité.
Salomé, est-ce que justement les vrais patrons du pays, ce ne sont pas ceux-là qui sont considérés dans l'administration comme étant les maillons essentiels des projets, qui décident de donner telle ou telle orientation à un projet? Des fois au Sénégal aujourd'hui, quand vous venez dans un bureau, on ne vous le dit pas peut-être de façon très claire, mais de façon subtile, si vous ne donnez pas un package, le dossier ne passe pas.
Oui, mais c'est toujours la corruption, il ne faut pas le... Je veux dire, c'est un problème qui n'est pas spécifique d'ailleurs au Sénégal. Hein. C'est un
mais comment combattre ça de façon efficace?
Ah ben voilà, justement, il faudrait que ce soit une sorte de culture, de philosophie, de dire que bon, maintenant, nous vivons dans la mondialisation. C'est une question de compétition. Nous aimons notre pays. Hein. Nous voulons faire partie des premiers. Pour faire partie des premiers, voici le modèle qu'il faut suivre. Voici les hommes qu'il faut. Et puis en faire une politique globale. Je veux dire aussi bien au niveau de l'école, au niveau de la télévision, au niveau de la radio, que ce soit, tu vois, un élan commun, un élan global. Et j'espère qu'on y arrivera, parce que aussi il ne faut pas perdre de vue, par exemple, que il y a un fonds d'investissement qui est créé, hein, il y a un fonds de garantie qui est créé, il y aura la BEN, la Banque nationale de développement économique. Donc en fait, le pouvoir est conscient de ce qu'il convient de faire, et le fond, étape par étape. Mais moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'un dossier aussi fouillé, qui est passé par les mains d'experts étrangers, il paraît que c'est la firme McKinsey qui a fait ça, hein, qui est passé par les mains de ces experts, des fonctionnaires sénégalais, et il n'est mentionné nulle part la stratégie, la politique monétaire qui va sous-tendre, hein, ce projet économique. Alors ça m'inquiète, soit parce que il pense que ce n'est pas d'actualité, et donc franchement c'est même pas la peine d'espérer. Ou alors vraiment ça va faire l'objet d'une réforme, et ça pour le moment il n'en parle pas globalement, mais il y a une impossibilité.
Ils ont peur de toucher le sujet.
Mais oui, mais justement parce que tout ce qui le touche se va débarquer. Je te dis, Bozizé, hein, c'est le dernier en République centrafricaine, hein, et puis ça va continuer. Et d'ailleurs, je ne sais pas si ça vous a... je veux dire, il faut que ça frappe les gens que quand on parle de pays émergents en Afrique, hein, c'est en dehors de la francophonie, c'est en dehors de cette zone franc.
Mais il y a quand même, dans ces pays, les gens qui travaillent. Il y a quand même, au Kenya, quand on regarde bien, même quand les gens prennent le bus, il y a quand même un ordre.
Ouais,
ils font la crise, ils prennent le bus, ils s'arrêtent au feu rouge.
Ouais.
Mais au Sénégal, c'est le grand n'importe quoi dans ce pays. Chacun fait ce qu'il veut.
Oui, mais justement, il faudrait que... et tout le monde en a marre. Chacun fait ce qu'il veut, mais tout le monde sait qu'il a besoin de discipline. C'est une aspiration.
C'est ça le problème. Tout le monde, on constate où est l'action.
C'est un programme. De la même manière, c'était dans les programmes politiques. Hein? Dans les programmes politiques, il faut que ce soit une donnée intégrée.
Ah oui, aucune société ne peut fonctionner sans un minimum de discipline. Ça, c'est connu, aussi bien dans une entreprise ou au niveau de l'État, on ne peut pas fonctionner mais dans le désordre. Ce n'est pas possible. Et quand on regarde, effectivement, au Sénégal, on a parlé d'absentéisme, et puis on a parlé de fonctionnaires fantômes ou un certain nombre de choses, mais c'est... Il faut, et puis on renferme un certain nombre de valeurs culturelles et sociales, parce qu'il y a quelque chose qui se passe. Si le gestionnaire, je connais le gestionnaire ou je connais le directeur, il suffit de passer ou lui passer un coup de fil,
le voir, et puis voilà, mon neveu, mon cousin en souci avec vous, bon, pour la première fois il a été absent, ou il y a eu ça, et là ça se passe facilement. Il faut qu'on arrive à changer les mentalités. On ne peut pas...
Non, ce qui m'inquiète, c'est que M. Keita, le diagnostic a été fait, les gens savent ce qui ne va pas, mais le problème c'est que pourquoi, depuis lors, il n'y a pas d'action pour changer les choses? C'est ça le problème.
Oui, mais justement, vous savez, il y a, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a une structure de groupement comme Yanamar qui a commencé à manifester, voilà, qui... par rapport au fonctionnement, par rapport au... Et je trouve qu'ils ont bien fait de manifester. Parce que... Mais ça, c'est de la responsabilité de l'État. Vous me direz, effectivement, nous sommes des citoyens sénégalais, donc il faudrait qu'on a notre part de responsabilité. Mais c'est ceux qui ont la charge de l'État, qui bénéficient d'une adhésion populaire et qui ont la légitimité et la légalité nécessaire pour diriger ce pays, on leur a choisi. S'ils ne sont pas là par hasard, ils ne sont pas là par un coup d'État, c'est par des élections libres et transparentes qu'ils sont là. Donc il va falloir maintenant que chaque fois que des élections, qu'on organise des élections, que les citoyens prennent les responsabilités aussi, le choix des dirigeants. Mais depuis l'indépendance, je vous ai toujours dit, ça a été critiqué par partout. Et pourtant, je le disais tout à l'heure, on a toutes les compétences, mais ça ne suffira pas.
Écoutez, Salombaye.
Moi, je dis que justement, tout ça, qu'il s'agisse du caractère, qu'il s'agisse de l'individu, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse du politique, il faut une rupture. Une rupture totale. Mais est-ce que les prémices, enfin, quand moi je vois que pour aller présenter des projets à Paris, aux institutions de Bretton Woods, aux Occidentaux là, avec le modèle de développement qu'ils nous proposent depuis 50 ans, et c'est ce qu'ils veulent en sortir, hein, on vous crée des guerres chez vous et tout, et des guerres, des soulèvements. Et avec ces gens-là, pour aller leur porter des projets qui ne représentent même à peine 30% de notre enveloppe globale, on y va, il y a des gens qui parlent de 300 personnes, d'autres qui parlent de 400, d'autres qui parlent de 500 personnes. Non, ce n'est pas acceptable. Ça veut dire, pour le moment, on ne sent aucune volonté de rupture. Mais moi, j'ai dit aussi que le fait que le président soit passé en Chine avant d'arriver, le rapport de force, c'est quelque chose qui existe, hein. Pour le moment, notre économie est en otage. C'est une économie qui est en otage, l'économie du Sénégal.
Mais est-ce que justement le Sénégal est parvenu justement à jouer sur ce rapport de force entre influence chinoise et occidentale pour pouvoir en profiter?
Mais justement,
est-ce que c'est possible?
Et c'est ça qui fait que je me dis que peut-être que le président nous montre d'une manière très subtile. Avant d'aller à Paris, je passe en Chine, c'est la Chine qui fait la différence. Vous ne pouvez pas m'empêcher de... Si vous ne me donnez pas ce que je veux, vous ne pouvez pas m'empêcher d'aller chercher là où je veux. Parce qu'il a été même question d'une règle de l'UOA qui était censée approuver tout investissement asiatique avant que ça ne vienne. Ça veut dire quoi? Investissement asiatique, il pensait d'abord chinois. Hein. Donc, en fait, les Occidentaux sont là pour contrecarrer. On a vu quand Obama est venu, ils sont là pour contrecarrer l'apport chinois. Mais pour contrecarrer l'apport chinois, mais adopter le même modèle de développement qui semble donner des résultats positifs, à partir de nous l'aide, d'accord, mais que ce soit lié à l'investissement, que ce soit lié au transfert de technologie et que ce soit lié au commerce.
Oui, mais dans cette bataille Chine-Occidentaux dans nos pays, est-ce que nos dirigeants, les dirigeants africains, comprennent les intérêts de l'Afrique, du Sénégal dans tout ça?
Mais ils comprennent.
Mais est-ce qu'il applique?
Il serait illusoire de dire qu'ils ne comprennent pas. Ils comprennent très bien l'intérêt du Sénégal. Ils savent, ils connaissent le pays, ils connaissent les difficultés. Mais est-ce qu'ils font tout pour régler ces difficultés? Le problème, il est là. Mais on ne peut pas dire que les dirigeants ne connaissent pas les difficultés qu'on vit. Mais par contre, ils sont à l'origine. Ils sont à l'origine des difficultés parce que c'est l'État quand même qui régule. L'État qui régule. Et les contrats... Oui, M. Veil.
Non, je voudrais dire simplement, tout programme de développement, tout projet à envoler, politique économique, il y a un volet politique monétaire, la politique monétaire qui sous-tend la politique économique. Bon, maintenant, la politique économique, on l'a montré, ce sont des projets qu'ils ont présentés, qui, moi je parle de taille, mais la logique, hein, on ne réinvente pas la bicyclette. Hein. Vous avez de l'arachide, si vous voulez vous industrialiser, transformez ça en huile, hein, en beurre.
Sur
hein,
place.
Hein, vous avez du phosphate, transformez ça en engrais. Le produit que vous protégez, faites-le avec le coût de revient le plus bas pour avoir le meilleur prix. Ce coût de revient, il y a les salaires, hein, mais il y a les matières premières, il y a tout. Donc, il faut tout faire pour avoir le meilleur coût de production. Mais tu ne peux pas le faire dans le cadre actuel. Donc, il faut rompre.
Oui, mais monsieur Mbaye, je comprends, mais il faut produire, ok.
Pardon ?
Il faut de l'électricité.
Oui.
Il faut qu'on...
Ça fait... dans les projets qu'il présente, il y a des projets...
Oui, mais oui, d'électricité...
Non, on parle de mix énergétique oui, ici oui. Et tout. Donc, tous les projets sont là.
Tout à fait.
Mais seulement, il faut donner le cadre, l'environnement nécessaire, le cadre. Et ça, moi, ce qui m'inquiète, c'est qu'il n'en parle pas. Donc, j'essaie d'interpréter des signes, de dire que le président est passé en Chine avant d'aller à Paris. Et quand de Paris, il est parti à Doha. Donc, parce qu'en définitive, les financiers, maintenant, c'est
le Qatar.
Les pays émergents et puis les pays du Golfe.
C'est le Qatar.
Et puis, envoyer un signal, dire que, bon, écoutez, hein, nous avons encore besoin des gestions de fret. Nous, c'est ceux qui ont, c'est elles qui ont patronné nos économies depuis. Maintenant, avec eux, on est dans un programme d'austérité. Il ne faut pas que les gens oublient quand même que notre déficit est tel qu'ils veulent nous ramener. Donc, on est dans un système de programme d'austérité, alors qu'aussi, de notre côté, il faut investir, il faut des programmes d'expansion. Donc, vraiment, tout ce qui touche au crédit, tout ce qui touche à l'investissement, tout, il faudrait absolument, au lieu d'interpréter des signes en disant que, bon, le président est passé en Chine, après il est allé à Doha, il faudrait que ces Occidentaux comprennent. Hein, il faut passer à l'action, il faut rompre avec ce système. Et ce système, tu ne peux pas rompre, tu ne fais pas des propositions. Ils ont rencontré Hollande, mais ils n'ont qu'à faire des propositions de réforme. Hein. Ils n'ont qu'à faire des propositions de réforme dans ce système, parce que les taux d'intérêt que nous appliquons, c'est pas possible que ça continue. Le taux de change que nous appliquons, c'est irréaliste. On ne peut pas avoir une monnaie. Au Sénégal, la monnaie, le CFA, s'apprécie par rapport au dollar. C'est pas possible. Tu ne peux pas faire partie des pays les plus pauvres du monde. On vous a classifié parmi les pays, les pays pauvres, les plus endettés du monde, et votre monnaie est plus forte que la monnaie, le dollar. Ça, c'est pas possible. C'est un cercle vicieux. Il faut sortir de ce cercle, sinon tous les rêves que nous ferons, tous les projets que nous ferons, ça ne mènera à rien.
Dramane, comment peut-on sortir aussi du cercle vicieux des élections locales ici au Sénégal? À chaque fois qu'on veut y aller, il y a souvent des reports. Qu'est-ce qui fait qu'au Sénégal, qu'on n'arrive pas, la plus claire du temps, à tenir les élections locales à date issue?
Mais ce principe, c'est qu'il y a un calendrier qu'il faut respecter. Il faut être républicain. Et c'est dommage que ça arrive. C'est pas la première fois. C'est arrivé. Quasiment tous les régimes ont connu le report des élections. Et puis avec les changements des régimes aussi, naturellement, du gouvernement, ça pose souvent des problèmes parce qu'il y a une stratégie de conquête et de conservation du pouvoir au niveau local. Alors, tout ça font que les nouveaux essaient de prendre des précautions pour au moins contrôler un certain nombre de territoires. Alors, s'ils ne sont pas prêts, moi je dirais que si... Bon, c'est vrai que ça pose un problème au niveau des propositions qui sont faites, la réforme...
L'octroi de la décentralisation.
Voilà, l'octroi de la décentralisation. Donc, le projet est là. Est-ce qu'il faut appliquer certaines dispositions? Donc, l'élection locale, normalement, était prévue pour le 16 mars, si je me trompe. Donc, vous savez très bien, attendez, nous sommes le 2 mars.
Là, c'est au mois de juin, alors.
Oui, ça a été reporté au mois de juin. Enfin, ça a été prévu au mois de juin. Donc, au mois de juin, est-ce qu'on aura encore la capacité d'organiser? Or, il faut quand même un minimum de consensus, parce que les acteurs participent à ces élections. Donc, ça, c'est la règle de la démocratie. Il faut que tous les partis politiques, je ne dirais pas, parce que c'est vrai que c'est une gabegie, c'est vraiment inacceptable qu'on ait autant de partis, d'ailleurs, qui ne participent même pas aux élections. Bon,
Voilà, mais au moins une majorité claire, quoi, qui
Nous sommes toujours dans la logique des marchés politiques, comme vous dites dans votre livre.
Tout à fait, oui. Tout à fait, parce que là, si les acteurs interviennent pour la conquête du pouvoir, vous savez, déjà, si on prend le président de la République, il est arrivé, il a eu la conquête du pouvoir, il a le pouvoir. Mais il faut conserver le pouvoir. Bon, on a un système qui fait que les mandats sont limités. Très bien, on est en démocratie. Là, déjà, il pense au deuxième mandat. Qu'on le dise oui ou non, il pense à travailler d'abord. Donc, c'est toujours la conquête. Et la perception de ce que le gouvernement et les autorités offrent. La perception du peuple. Parce que l'offre est là. Est-ce que le débat est posé? Chaque fois que je discute avec des collègues, ils me disent oui, mais le problème, c'est que... là, il est élu pour 7 ans. Le président de la République est élu pour 7 ans. Sauf que, de par son propre chef, il souhaite que le mandat soit sur 5 ans. Mais au niveau local, il faut qu'il ait une assise. Il faut qu'il ait une assise. C'est pas le président qui... C'est pas l'APR qui contrôle au niveau local. Donc, il faut que c'est un parti majoritaire. Il faut que le parti... soit bien implanté au niveau local.
Salomé, pourquoi, à votre avis, à chaque fois qu'on parle d'élections locales au Sénégal, on est dans des tractations politiques, des fois politiciennes, qui font qu'on est obligé, des fois, d'aller vers le report de ces élections, et le mois de juin semble poser problème à beaucoup de gens, ça dès le mois qui coïncide le mois de Ramadan, la saison des pluies. Est-ce qu'objectivement, les conditions ne sont pas encore en train d'être mises en place pour reporter les élections locales?
Écoute, moi, un sens, vraiment, je ne saurais pas répondre. Ce que je déplore, c'est que, compte tenu des enjeux, des paris que nous avons à relever, depuis 10 ans, on n'entend parler que d'élections locales, de traite de biens mal acquis, de réforme des institutions. C'est-à-dire vraiment, c'est des écrans de fumée. Parce que bon, on me parle d'institutions, moi je suis tout à fait satisfait de nos institutions. Hein. Les institutions, c'est les hommes qui les font. On parle d'élections locales, mais bon, l'élection locale, il paraît que c'est les partis, il faut faire des magouilles et tout ça. Mais franchement, je trouve que c'est déplorable. C'est déplorable que nous n'avons jamais pu aborder des sujets de discussion, que ce soit au niveau des élections, parce que ça n'a jamais été. Que ce soit des élections présidentielles, que ce soit des élections législatives, on ne discute jamais des fonds. Maintenant, pourquoi les calendriers sont bouleversés, tout ça? Franchement, il faudrait voir les acteurs locaux. Moi, je ne peux pas répondre à cette question. Tout ce que je déplore, c'est qu'on ne parle que d'élections, on ne parle que de traite de biens mal acquis, on ne parle que de réforme des institutions, mais il faudrait qu'on parle aussi de cette zone franc, comment s'en sortir, comment mettre un modèle de développement qui peut nous sortir de là. Que le rêve d'émergence ne cesse d'être un rêve pour être une réalité.
Parce que pour vous, les vraies questions ne sont pas abordées,
non,
ça?
Non.
Pourquoi?
Ben, justement, parce que c'est une stratégie, c'est peut-être un stratagème. Hein? C'est ouais. Pareil que les gens de les passionner dans la lutte, de les passionner dans le sport pour détourner leur attention des faits essentiels. C'est ça, bon, donc, alors les politiques sont là pour dire que la rupture qu'on nous demande, nous, on ne peut pas, parce que de toute façon, ils y adhèrent, ou alors ils disent qu'on ne peut pas, donc, essayons de divertir, mais ou alors, franchement, ils peuvent aborder ces sujets, il est temps que nous abordions les sujets essentiels. Ça ne veut pas dire que les élections locales et tout ça ne sont pas essentielles, mais que ça ne constitue pas un écran de fumée qui empêche de parler des sujets essentiels. Et ces sujets... Il y en a marre. On ne peut plus continuer cette zone franc, on ne peut plus continuer ce CFA. Ce n'est pas possible.
Vous partagez cet avis que.
Les élections.
C'est un cafarnaum
comme ça. Mais forcément, parce que de toute façon, ça occupe les Sénégalais pendant ce temps-là. On parle d'élections, on parle de fonds, on parle de traque des biens mal acquis. Et bien voilà, c'est l'actualité. Mais c'est que le problème qui se pose, c'est que l'actualité, elle est permanente. Il y a un certain nombre de thèmes qui sont là. Ben voilà, on en parle. Et résultat, après, il faut faire le bilan. Quoi qu'il en soit, il faut faire le bilan. Et quand, bon, à mi-mandat, bon, on ne peut pas juger un gouvernement à mi-mandat, donc voilà, bon, ben, on verra. Mais ce qui est sûr, c'est que, bon, Voilà, il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire.
Voilà, merci infiniment à mes invités d'avoir été avec moi. Merci à Sanou Mbaye, économiste en sciences de la Banque africaine de développement, à Brahman Keita, qui est analyste politique, auteur du livre « Le marché politique sénégalais, un Capharnaüm », à la technique Abdoulaye Diop, micro Alassane Samba Diop. Cette émission, vous pourrez la réécouter à partir de 15h sur la radio Futur Média, aujourd'hui même, ce dimanche. Merci et bon dimanche à tous.